l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale d'agir et de protéger le peuple burundais? Voilà la question posée lundi à Bruxelles, où le Parlement belge a reçu une délégation de la société civile burundaise en exil pour faire le point sur la situation des droits de l'homme dans ce pays plongé dans une profonde crise politique, une crise qui dure maintenant depuis avril 2015, depuis 18 mois, depuis que le président Pierre Nkurunziza s'est représenté pour un troisième mandat. En tout cas, cette initiative des sénateurs belges a provoqué la colère des autorités de Bujumbura, qui accusent clairement la Belgique de déstabiliser le pays. La Fédération internationale des droits de l'homme a pour sa part dressé un bilan macabre de la situation au Burundi. En un an et demi, la répression a fait plus de 1000 morts, des centaines de personnes ont disparu, les arrestations politiques se comptent par milliers et 310 000 personnes ont été contraintes à l'exil. Des accusations là aussi rejetées par les autorités burundaises. Vous l'avez certainement entendu sur RFI, Willy Nyamitwe, qui est en charge de la communication du président Nkurunziza, a affirmé que ce rapport frisait le ridicule. Alors que vous inspire la gestion de cette crise? Que peut faire, que doit faire la communauté internationale? Visiblement, le régime burundais reste sourd aux pressions et aux sanctions adoptées par l'Union européenne et les États-Unis. Vous nous rejoignez, on a envie de vous entendre évidemment sur cette actualité. 33 9 693 693 70. Vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, j'en lirai évidemment quelques-uns tout au long du débat. On commence avec vous, Godet, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez du Congo, à Pointe-Noire exactement. Vous dites que la communauté internationale a un devoir d'ingérence.
Exactement, Juan. C'est un devoir d'ingérence parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Burundi, nous le suivons tous, c'est tout simplement un massacre et la communauté internationale ne peut pas rester comme ça inerte sans agir. Et aujourd'hui, l'action ne doit plus se limiter aux simples sanctions telles que nous les observons. Il faut carrément une intervention militaire massive, bien coordonnée, organisée par l'ONU. C'est quoi la seule façon aujourd'hui d'arrêter Nkurunziza et tous les désordres qu'il est tenté d'organiser contre son peuple?
Donc vous privilégiez l'option militaire. On se souvient, Godet, que l'Union africaine avait décidé d'envoyer sur le terrain plusieurs milliers d'hommes. On parlait de 5000 soldats pour protéger la population et éviter que la situation ne dégénère. Le président Nkurunziza a toujours rejeté cette perspective.
Mais exactement, Juan, vous ne pouvez plus prendre le point de vue de quelqu'un comme ça qui est en train de massacrer son peuple. Il faut s'imposer à lui. Et cette question ne peut plus aujourd'hui être réglée simplement au niveau de l'Union africaine. Il faut que carrément l'ONU prenne en charge ce dossier et agisse. Parce que ce n'est pas normal, Juan, que déjà l'Union africaine, elle tergiverse beaucoup sur ces questions-là. Nous savons que généralement, les chefs d'État, lorsqu'ils se retrouvent au sein de cette organisation, ils parlent beaucoup plus des intérêts de ces chefs d'État. C'est pourquoi on l'appelle un syndicat des chefs d'État. Aujourd'hui, c'est une question qui va au-delà de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'ONU doit se saisir de cette question et organiser une intervention de la communauté internationale, bien entendu en associant des pays africains pour arrêter le massacre. Il faut combien de morts au Burundi pour qu'on puisse véritablement intervenir? On nous parle là des menaces de génocide. Alors il faut que ça se produise en fait pour que les gens commencent encore à regretter. Non, il faut arrêter ça. Et la communauté internationale aujourd'hui n'a pas suffisamment de ressorts justement, et c'est ce que nous déplorons, nos peuples africains, pour réagir face à ces dictateurs-là qui s'étaient mis au pouvoir en s'imposant et en massacrant leur peuple. C'est ça le problème.
Le risque de génocide, c'était justement la raison invoquée par l'Union africaine il y a quelques mois pour envisager le déploiement de soldats sur le sol burundais. L'Afrique ne permettra pas un nouveau génocide sur son sol, avait expliqué à l'époque le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Merci Godet de nous avoir appelé. Bonne journée à Pointe-Noire sur Facebook. Bertin nous dit: quelqu'un qui tue ses concitoyens, fût-il président de la République, doit être arrêté. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour éteindre le feu allumé par Pierre Nkurunziza. Michel, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Guinée et vous dites-vous que c'est à l'Union africaine de prendre en main la gestion de cette crise. À l'instant, Godet, qui est à Pointe-Noire, lui critiquait l'inefficacité de l'Union africaine. Vous vous dites que c'est à elle de gérer la crise.
Oui, en fait, c'est pas à elle toute seule, mais elle aurait pu être le fer de lance de cette histoire, montrer à la communauté internationale qu'il y a que cette organisation sert à quelque chose. Or, ce qu'on voit de l'UA, c'est qu'elle est l'ombre d'elle-même. Parce que ce qu'elle avait dit jusqu'aujourd'hui, heureusement pour l'instant, et c'est pour l'instant seulement, il n'y a pas eu de, comment ça s'appelle, de génocide au Burundi, mais on va attendre jusqu'à ce que ça se fasse, comme disait tout à l'heure l'autre auditeur, pour qu'on réagisse. L'UA est l'ombre d'elle-même. Maintenant, la communauté internationale commence à bouger. Elle doit bouger le plus vite possible. Depuis 18 mois, ce peuple souffre. Hein, on se rend compte qu'aujourd'hui, le gouvernement burundais est aux abois, puisque quand on entend la virulence de leurs propos, on se rend compte qu'ils sont aux abois. Maintenant, financièrement, ça commence à étrangler. Il faut qu'on continue à serrer. Moi, j'avais toujours dit que c'est pas le gouvernement burundais qu'il faut aider, c'est le peuple burundais qu'il faut aider.
Ouais. Quand vous dites que financièrement le pays commence à étouffer, je rappelle quand même et je précise que l'Union européenne, qui est le principal, qui était le principal bailleur de fonds du Burundi, a réduit de 20%, son aide directe au gouvernement burundais, 432 millions d'euros en moins, ce qui est quand même conséquent.
C'est conséquent, oui, mais il faut continuer à serrer la ceinture de Nkurunziza, parce que ce monsieur, on ne peut pas, on verra bien qu'on ne peut pas négocier avec lui. Hein, il est avide de pouvoir, on ne pourra pas négocier avec ce monsieur. Donc il faut mettre ce monsieur hors d'état de nuire, parce que le risque qui va se poser, c'est que le Burundi est sorti de 10 ans de génocide, de guerre et de massacre. Il ne faut pas que ça recommence. Ce peuple a trop souffert. Ce peuple, vraiment, quand on voit 300 000, je ne sais pas combien vous avez dit...
310 000 exilés.
Vous vous en rendez compte, ces gens-là souffrent d'une manière intolérable, inacceptable, à cause d'un seul individu. Et j'insiste, un seul individu ne doit pas mettre la planète entière à genoux. Ouais. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, là, aujourd'hui.
Sur Facebook, Mamadou nous dit « Si Nkurunziza a décidé de se retirer et de retirer son pays du statut de Rome, donc de la Cour pénale internationale, c'est qu'il a des velléités de soumettre son peuple à une dictature qui ne dit pas son nom. Comment vous avez réagi à ce retrait du Burundi de la CPI ?»
Mais moi, ma réaction, c'est que c'est très simple. C'est ce monsieur, quand ils ont ratifié le CPI, il s'attendait pas à être lui aussi visé par le CPI. Aujourd'hui, il se rend très très bien compte que si jamais on essayait de faire quelque chose, il serait dans les mailles du filet de la CPI. Ouais. Et donc, sa seule solution, c'est de se retirer de la CPI et de faire de son peuple ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et donc ça, avant que ça arrive, il faudrait que la communauté internationale réagisse et puis mette fin à ce calvaire de ce peuple.
Ouais, on parle de la CPI, mais les relations, globalement, elles sont très tendues entre le Burundi et l'ONU. Alors certes, il y a eu ce retrait de la CPI. En même temps, Bujumbura exige de changer le médiateur de l'ONU, Jamal Ben Omar. Elle voudrait qu'il soit remplacé assez rapidement, même dès l'entrée en vigueur du nouveau mandat du secrétaire général des Nations Unies. Merci à vous, hein, de nous avoir appelé Michel, 339-693-693-70. Richard est avec nous. Richard, bonjour, vous êtes à Bruxelles.
Oui, bonjour Juan, je salue aussi les auditeurs de Bujumbura.
Vous êtes vous-même Burundais ?
Oui, tout à fait.
Très bien, on vous écoute sur la crise dans votre pays.
Alors, moi je voulais réagir par rapport au rapport de la FIDH qui parle d'un génocide en cours, un génocide de Tutsis en cours de préparation.
Alors attendez, excusez-moi Richard, je vous interromps tout de suite, la FIDH à aucun moment ne dit cela. La FIDH parle d'un risque de génocide, elle ne parle pas d'un génocide en cours.
Oui, tout à fait, mais c'est un langage c'est
différent quand même.
C'est un langage qui va vers cela, mais il faut dire que l'opposition radicale actuellement utilise ce rapport comme si le génocide était en cours. Ce que je voulais dire, au fait, c'est que aujourd'hui, quand on parle de risque de génocide de Tutsi, c'est un peu c'est un peu rabaisser la communauté des Tutsi, comme quoi eux, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Nous, on demande que pratiquement les Tutsi se lèvent et disent d'eux-mêmes qu'il y a un risque de génocide de leur ethnie. Le FIDH a fait un rapport qui est biaisé, mais qui n'est pas tout à fait complet, parce qu'ils n'ont que fait que rapporter ce que l'opposition radicale dit tous les jours depuis une année et demie. Il faudrait que les gens qui font des rapports puissent écouter une autre partie de l'opposition, parce que l'opposition radicale qui se réunit au SNARED ou de la société civile ne sont pas les seuls opposants qui sont opposés au pouvoir de Bujumbura. Il faudrait qu'ils écoutent toutes les parties.
Donc vous critiquez le fond de ce rapport publié il y a quelques jours par la Fédération internationale. Lorsque Willy Nyamitwe, qui est chargé de la commission du président Nkurunziza, dit que ce rapport frise le ridicule, ça vous inspire quoi, vous ?
Non, le rapport n'est pas tout à fait faussé. Il y a des vérités qui sont dans ce rapport, mais ce qui nous intrigue, les Burundais qui ne parlent pas du même langage que l'opposition radicale, ou bien qui ne parlent pas le même langage que le parti au pouvoir, il y a des Burundais qui sont à l'opposition, mais d'une manière plus modérée, qui cherchent des solutions. Eux disent que quand même, le FIDH et certains rapports de l'Union européenne des Nations unies se penchent plutôt du côté de ce que rapporte l'opposition radicale. Il faudrait qu'ils écoutent aussi d'autres personnes, parce que la vérité, ce qui se passe à Bujumbura est pratiquement tout autre. Oui, il y a des crimes. Il y a des crimes qu'on peut qualifier de crimes politiques, mais des crimes ethniques, on n'a pas encore trouvé ça.
Ouais. On parlait tout à l'heure de la Cour pénale internationale, elle a commencé à s'intéresser de près aux auteurs présumés des atteintes aux droits de l'homme au Burundi, et il y a eu par exemple un rapport, il y a 2 mois, accusant Bujumbura, donc le pouvoir, d'être responsable de graves violations des droits de l'homme, mettant en garde contre de possibles crimes contre l'humanité. Ce rapport parlait déjà en septembre d'un grand danger de génocide. Il y a eu, début octobre, si ma mémoire est bonne, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui annonçait l'ouverture d'une enquête visant notamment des personnalités du régime burundais, dont le numéro 2 du pouvoir. Donc on voit bien que la justice internationale se penche effectivement sur les atrocités commises par le régime. On va donner la parole, si vous le permettez, Richard, à un Burundais qui est sur place à Bujumbura. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour, Juan.
Merci d'être avec nous, on vous écoute.
Oui, ce qu'il faut faire, c'est d'agir maintenant dans l'immédiat, parce que le gouvernement de Burundi, c'est un gouvernement qui est aux abois, c'est un gouvernement intraitable, c'est un gouvernement qui reste inflexible, qui continue de réprimer son propre peuple. Alors, hier, on disait que c'est la Belgique qui s'ingère dans la politique intérieure du Burundi. Avant-hier, avec la France, avec la élection 2303, qui titulait le renvoi des casques des policiers de Nations Unies pour venir enquêter sur le droit de l'homme, le Burundi est monté au créneau. Alors, c'est un gouvernement qui est aux abois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
C'est un gouvernement qui est aux abois. En même temps, lorsque la France propose justement au Conseil de sécurité de l'ONU cette résolution qui est adoptée, il faut le préciser, à l'unanimité par tous les pays membres du Conseil de sécurité, et qui prévoit de déployer un peu plus de 200 policiers de l'ONU, Bujumbura s'y oppose. Elle dit non, nous ne voulons pas de ces policiers. Et ça s'arrête là.
Donc le
gouvernement n'est pas aux abois, comme vous le dites.
Oui, vous savez, c'est l'Union européenne qui est à la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne finance les soldats, le sort des soldats burundais qui se trouvent en Somalie. Alors, ces sont des soldats burundais, sont détournés par le gouvernement burundais. Ils les utilisent pour acheter des armes, pour payer les militaires Imbonerakure, aujourd'hui qui fait des ravages au Dojoui, et qui fait les policiers qui ont un outil de répression du Burundi. Il faut que l'Union européenne passe à l'état extérieur pour qu'ils ne financent plus le sort des Burundais des Tema, oui. aussi sur le compte burundais.
Alors parce effectivement, que... c'est ce que proposent certains. Il faut que l'Union européenne prive le gouvernement burundais des fonds de l'AMISOM, donc la mission déployée en Somalie, puisque certains sont convaincus que le gouvernement détourne l'argent qui est censé financer la présence des soldats burundais sur le territoire somalien. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Jean-Michel de nous avoir contacté. Le réseau téléphone n'était pas très bon, mais c'est bien d'entendre les rares Burundais sur place, sur l'antenne d'RFI. Je remercie Richard qui nous appelait de Bruxelles. Brice Day, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous dénoncez l'inaction de la communauté internationale.
Oui, bien sûr, en premier lieu de l'Union africaine, qui est un machin qui ne sert plus à rien. Parce que vous vous rendez compte, tout à l'heure, l'auditeur précédent a parlé des fonds de l'Union européenne. L'Union européenne a demandé à ce qu'il ne puisse plus verser l'argent directement au gouvernement burundais, mais plutôt à l'Union africaine. L'Union africaine a refusé. Je pense que vous êtes au courant.
Tout à fait. L'Union africaine...
Il a refusé. Oui. Voilà. Et où est la volonté de l'Union africaine de mettre un terme à cette situation? Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est le déploiement d'une force militaire au Burundi, quoi que dise le gouvernement burundais, pour arrêter les massacres. Les gens continuent à mourir pendant que la communauté internationale tergiverse, les gens meurent. Il faut y mettre un terme, il faut une intervention militaire, quoi que dise, quoi que pense le gouvernement burundais. C'est un gouvernement qui n'a pas du tout envie de négocier, de sortir de la situation. Ils sont empêtrés dans une situation dans laquelle ils ne voient aucune issue, sinon la fin du régime. Alors, ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Mmh. C'est vraiment un gouvernement jusqu'au boutisme.
Alors, ne raccrochez pas, Brice Day. Alpha nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, Alpha.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes très pessimiste, hein, puisque vous disiez au Standard que la communauté internationale ne peut plus rien faire au Burundi.
Bon, moi, je suis de ceux-là qui pensent que ni l'UA, ni la communauté internationale n'a rien voulu faire, et le peuple est là, on est en train d'aller vers un massacre de citoyens. Comment un président va s'entêter, lui seul, contre tous, lui seul contre tous? Je suis d'accord pour mon prédécesseur. Il faut la force. Que si vraiment la communauté internationale veut sauver ce peuple-là, qu'il descende à l'aéroport. Il faut une intervention militaire forcée. Et ils vont faire quoi? Est-ce que l'armée burundaise est plus puissante que l'armée de la communauté internationale? Parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Pourquoi toutes les décisions internationales, le monsieur s'oppose catégoriquement. On propose des policiers pour venir sécuriser la population. Il dit non. Et son seul non suffit pour que la communauté internationale ne puisse rien faire.
Oui. Et puis, et l'Union africaine que vous critiquez, Alpha, proposait le déploiement de 5000 hommes sur le terrain pour protéger la population. Et je me souviens des propos de la présidence burundaise à l'époque qui avait dit « Attention, si vous déployez ces militaires-là, nous allons les considérer comme une force d'invasion, comme une force d'occupation. » Ça signifiait quoi? Ça signifiait que si ces hommes se déployaient sur le terrain, il y aurait clairement des affrontements entre l'armée burundaise et les soldats de l'Union africaine. Brice Day, vous souhaitez dire un petit mot encore et on donne la parole à un autre auditeur?
Oui, bien sûr. L'armée burundaise, quand l'Union africaine a fait cette proposition, 5000 hommes, le gouvernement burundais a dit « Non, attention, si vous les envoyez, ils vont être considérés comme une force d'occupation. » Mais non, l'armée burundaise ne peut pas affronter la communauté, les forces de la communauté internationale. Au bout d'un moment, il va s'y plier. Ils vont se plier à la réalité. C'est ça. Il faut forcer la situation. Il ne faut plus attendre. Les gens meurent.
Brice Day, je vous interromps. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Merci à Alpha qui nous appelait de Ouagadougou, Pierre, Jimmy, Jean Modeste et d'autres qui souhaitaient prendre la parole. On garde vos coordonnées. On vous rappellera évidemment dès que nous reviendrons dans cette émission sur la situation au Burundi. Demain, on parlera francophonie puisque de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Madagascar pour le 16e sommet de la francophonie. Et ce sera l'occasion de débattre de la pertinence de cette organisation. On se souvient qu'il y a 2 ans, lors de sa nomination, Michaël Jean plaidait pour une francophonie moderne, une francophonie plus visible, plus audible. Alors elle a été certes la première secrétaire générale de l'OIF à prendre la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était il y a quelques jours. L'organisation s'investit dans la lutte contre le terrorisme, dans la gestion de la la crise des migrants, dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a envie de vous entendre justement sur votre perception de la francophonie. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Surtout, n'hésitez pas, appelez-nous et on se retrouve demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 104.